Chapitre 21. L'anonymat te permet de vivre et d'agir dans l'ombre. Il te conduit également à crever seul comme un chien. Proverbe de Paris. Cité unifiée de Nilopa. Imaginez un bâtiment sans grâce, une façade écaillée, un hall d'entrée tellement foulé que ses dalles avaient perdu toute couleur, tout lustre, des escaliers et des couloirs tellement vétustes qu'on craignait à chaque instant de passer à travers les planchers, des cloisons grises, sinistres, des plafonds bas criblés de taches d'humidité, des bureaux lugubres, garnis de meubles d'un autre âge, des hommes et des femmes blafards qui semblaient errer dans les lieux comme des spectres, les fameux fantômes, des machines vétustes, une odeur indéfinissable, des toilettes antédiluviennes, des craquements et des crépitements horripilants. Bienvenue dans le central des fouineurs de la cité de Paris. La mine chiffonnée d'Ava s'immissa dans l'entrebâillement de la porte. Toujours pas de nouvelles de Théo ? Avachi sur sa chaise, Ganesh se redressa et frotta du dos de la main ses joues et son menton hérissé de barbe. « Bonjour Ava. » Elle entra, portant sous sa veste une robe plutôt courte d'où s'évadaient ses longues jambes gainées de bas couleur chair. « Putain, ce que tu peux être formaliste ! Tu te sens vraiment mieux si je te dis bonjour ?» Beaucoup mieux. Et non, je n'ai pas de nouvelles. Ava s'assit en face de lui, tira une petite boîte nacrée de la poche de son sac à main et saisit une petite pilule blanche qu'elle glissa entre ses lèvres. Faudrait interroger sa gémine, fit-elle après avoir bu une gorgée au goulot d'une bouteille d'eau minérale. On peut pas communiquer dans ce sens-là. Théo le faisait bien, lui. Je l'ai entendu appeler le central des gémines pour savoir ce que tu étais devenu. Ganesh bâilla à s'en décrocher la mâchoire.
« Il t'a dit comment il faisait ?»« Oh.
Tu sais aussi bien que moi qu'il n'expliquait jamais rien, » répondit Ava.
« On parle déjà de lui à l'imparfait, comme s'il était mort.
Ta gémine t'a dit qu'elles avaient perdu sa trace. C'est pas bon signe. Tant qu'on n'aura pas vu son cadavre... » Ava se leva, remplit la bouilloire d'eau, lava la théière et deux tasses. Les émeutes se multiplient dans la cité. Elle renifla le torchon avec circonspection avant d'essuyer les tasses. La situation devient intenable. Les municipalités ont décidé de convoquer une assemblée extraordinaire à Londres.
« Le coup d'état du maire de New York, » murmura Ganesh.
« Qu'est-ce que tu racontes ?»«
Je crois pas que cette assemblée soit motivée par les ombres, » précisa-t-il,
« ni par les émeutes.
Il s'agit seulement d'une manœuvre politicienne. »
Il se surprit à penser que sa biopuce ne lui fournissait aucune statistique, comme si les intrigues politiques de la cité ne la concernaient pas. Ava s'interrompit pour le regarder.
« Où tu as pêché cette idée ?»«
Peu importe. Apparemment, certains ont décidé de tirer profit du chaos généré par les ombres. On peut même se demander s'ils ne l'ont pas provoqué. »
Biopuce toujours muette. Une moue réprobatrice allongea le visage d'Ava.
« Tu veux dire qu'ils seraient eux-mêmes à l'origine du phénomène des ombres ? Qu'ils auraient plus de 100 000 morts sur la conscience ? Aucun homme politique digne de ce nom n'offrait un truc pareil. C'est totalement contraire à l'esprit des principes fondateurs de la cité unifiée. »
« Cela fait plus d'un siècle que les cités unifiées ont été fondées, » objecta Ganesh.
« On a eu largement le temps de les oublier, les principes fondateurs. Nous vivons en vase clos depuis trop longtemps. L'équilibre de Nilopa reposait en grande partie sur le désir, et nous avons perdu notre vitalité, notre détermination. »
Les textes prévoient des garde-fous, non ?
Ganesh rejoignit Ava devant la table et mit deux sachets dans la théière.
On peut les contourner. Je suis maintenant convaincu que Théo était sur la bonne piste et qu'il devenait dérangeant.
Si ton hypothèse est juste, ça ne nous laisse vraiment aucune chance de le revoir vivant, ajouta Ava d'un air sombre.
Qu'en dit ta biopuce ?
Ganesh ouvrit la porte du petit réfrigérateur et en sortit la brique de lait.
Elle n'a pas d'avis. La cité est devenue folle. Je suis crevé. J'ai passé toute la nuit à jouer le chien de garde devant la mairie. J'ai dû utiliser mon tasse à 4 reprises contre les plus excités. J'ai obtenu un repos compensatoire de 6 heures. Je vais essayer de dormir un peu. Je rentre, moi aussi. Je pensais qu'on aurait besoin de tout le monde, mais on m'a expliqué que, comme je n'étais pas encore officiellement intégré au corps des fouineurs, il valait mieux que je retourne chez moi.
Tu habites où ?
Au nord, à Saint-Denis.
La bouilloire siffla. Ganesh versa l'eau bouillante dans la théière. « Je t'accompagne après le thé. On prend la même ligne de métro. Les membres de la fraternité sont au complet. Les réseaux ont été partiellement rétablis. En tant que président de séance, je déclare la session ouverte. Vous avez mis du temps à vous manifester, frère. Je crains fort qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvions intervenir plus tôt. Vous connaissez aussi bien que moi les règles de la fraternité. Elles nous interdisent tout contact physique. Étant donné l'urgence de la situation, les règles pouvaient et devaient être contournées. La fraternité a été fondée pour enrayer les dérives totalitaires. La neutralisation des réseaux était une manœuvre des municipalités de Londres et New York. Nous n'avons pas su réagir à temps, nous sommes restés prisonniers de nos règles. Nous avons encore la possibilité de... L'assemblée extraordinaire commence dans moins de 2 heures. Je suis en cet instant même dans une salle annexe de l'ancienne chambre des lords de Londres. J'espère ne pas être sur écoute. Les délégations s'agitent dans tous les sens, une vraie ruche. Les militaires eux-mêmes ont l'air très excités. Nous avons de bonnes raisons de penser que certains membres de l'état-major restent acquis à notre cause et qu'ils refuseront de soutenir les initiatives des maires de New York et de Londres. Ils ont peut-être été chargés d'endormir votre méfiance. Avec succès, la preuve, vous n'avez même pas tenté de me contacter pendant l'interruption des réseaux. Encore une fois, l'efficacité de la fraternité repose en grande partie sur l'anonymat. Parlez pour vous, vous savez qui je suis. Vous êtes un homme public, c'est ce qui nous différencie. Les autres membres doivent agir dans l'ombre, c'est le garant de notre indépendance. L'heure n'est-elle pas venue de retirer les masques et de regrouper nos forces? Vous savez très bien que nous n'aurons aucune chance de gagner si nous engageons les preuves de force et nous présentons frontalement. Notre action est entièrement basée sur les idées, sur les réseaux d'influence. Ne croyez pas que nous sommes restés les deux pieds dans le même sabot durant la panne informatique. Nous avons préparé à notre manière cette assemblée extraordinaire. Comment? Comme je vous le disais, nous avons convaincu certains officiers de l'état-major de s'opposer à toute modification de la Constitution. Les militaires ne sont pas censés intervenir dans les affaires de la cité unifiée. Non, bien sûr. Mais aucun pouvoir ne peut prétendre à la légitimité sans leur appui. Vous pensez qu'ils seraient tentés de renverser le système actuel et instaurer une dictature militaire? La tentation les en a parfois effleurés, mais ils ont finalement estimé qu'ils auraient davantage d'inconvénients que d'avantages. Ils disposent de moyens technologiques considérables. Une faction d'entre eux aurait pu concevoir le phénomène des ombres. Nous ne le pensons pas. D'après ce que nous avons pu constater, ils sont très désireux d'en découdre avec les ombres. Créer de toutes pièces une menace pour apparaître comme l'ultime recours, cela s'est déjà vu dans l'histoire de l'humanité. Les ombres n'obéissent pas à la logique militaire. Elles semblent n'obéir à aucune logique. J'espère pour nous tous que tous les membres de notre fraternité sont fiables. Cette remarque pourrait être considérée comme insultante, frère. Nous n'avons aucune raison de penser que l'un d'entre nous a trahi. Le bon traître est celui dont on se méfie le moins. Gardez confiance, frère. Ainsi s'achève notre session. Ava se planta devant la baie vitrée. Superbe vue, s'exclama-t-elle. C'est donc là que tu crèches ? Il la rejoignit et laissa errer un moment son regard sur la ville. Le panorama suscitait toujours en lui la même émotion, le même émerveillement. C'est pas très grand, mais ça me suffit. Ava hésita avant de lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Amy ne vivait pas avec toi? On a parlé un moment d'habiter ensemble, mais ça ne s'est pas fait. On n'a pas eu le temps. Tu la regrettes? Ganesh essaya de faire le tri dans ses sensations, ses pensées, ses mots. Parfois oui, parfois non. Je me rends maintenant compte que ça n'aurait jamais pu coller entre nous. Elle disait toujours qu'elle ne pourrait pas vivre avec un fouineur et je la comprends. Son endophone émit une vibration prolongée. Excuse-moi, un appel sur mon biophone.
Ganesh?
La voix de Théo, oppressée. Ganesh se retira dans sa chambre.
Ganesh? Théo?
Enfin! Les Gémines disaient qu'elles avaient perdu ta trace, que tu avais disparu. Je suis super content de t'entendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils ont dit au central qu'ils avaient reçu une séquence vidéo qui te concerne. Tu es où?
Une séquence vidéo? Merde. Il faut absolument qu'on se voie. J'ai une foule de trucs à te raconter.
Je t'écoute.
Pas maintenant. Je suis surveillé en permanence. Je dois te voir seul. Seul. Faut que je trouve le moyen de...
la communication s'interrompit. Kanesh revint dans le salon.
C'était Théo? On a été coupé.
Peut-être un problème de réseau, avança Ava.
Essaie de le rappeler.
Le biophone le fait systématiquement en cas de coupure. Il ne répond pas.
Tu es sûr que c'était bien Théo?
Même si elle était bizarre, pas comme d'habitude, je reconnaîtrais sa voix entre mille.
Probabilité appel depuis un téléphone exogène. 75%.
Ça voudrait dire qu'il ne se sert plus de sa biopuce, murmura Ganesh.
Pourquoi tu dis ça?
Il aurait trouvé le moyen de la retirer. C'est sans doute la raison pour laquelle les Gémines ont perdu sa trace.
Probabilité de retrait de la biopuce analytique, 13%. Probabilité de dysfonctionnement de la biopuce analytique, 19%. Probabilité de cryptage personnalisé, 68%.
Je comprends pas tout ce que tu dis, ni tout ce qui se passe, reprit Ava. Mais il est vivant, c'est déjà ça.
Il m'a pas dit où il était. Il ne devrait pas tarder à rappeler.
Les assemblées de la cité unifiée passaient aux yeux des observateurs pour un chahut de garnement déchaîné. Les élus et leurs assistants, perdant rapidement toute dignité, se levaient pour invectiver les orateurs, hurlaient, sifflaient, applaudissaient, s'agitaient dans tous les sens, au point que l'incessant brouhaha couvrait la plupart des discours. On peut en déduire que les décisions étaient prises en amont dans le silence feutré des officines, que l'assemblée n'était qu'un spectacle donné en pâture aux médias pour entretenir l'illusion d'une vie démocratique. J'ai eu le triste privilège de prononcer un discours dans l'ancienne Assemblée nationale de Paris. Je n'ai pas trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Ce fut probablement l'une des pires expériences de mon existence.
Le président de séance avait beau augmenter régulièrement le son du micro, la voix du maire de Paris ne parvenait pas à dominer le brouhaha de l'Assemblée. Les bancs rouges de la vénérable et prestigieuse salle des lords semblaient ployés sous les bourrasques d'un vent furieux. Alaric Brognier écarta les bras pour restaurer un semblant de silence.
« Mesdames et messieurs, les maires de New York et de Londres exigent l'application immédiate de l'article 72A, qui a pour objet le transfert des pouvoirs dans les mains d'un seul homme !»
déclara-t-il en détachant chacune de ses syllabes pour donner aux interprètes le temps de traduire.
« Nous comprenons le sens de leur démarche, dictée par une situation dont l'urgence n'échappe à personne. Les criminels que nous appelons les ombres déciment les populations et font peser sur nos cités un très grave danger. Le plus important, peut-être, qu'ait connu Nilopa depuis sa fondation. Et la nécessité d'un regroupement de nos forces paraît également indispensable. »
Des applaudissements polis saluèrent le préambule d'Alaric Brognier.
Cependant, le recours à l'article 72A ne nous semble pas aussi nécessaire que certains le prétendent.
Les premiers murmures de protestation s'échouèrent au pied de l'estrade. Le maire de Paris s'éclaircit la gorge.
Pire, une telle démarche nous semble dangereuse, dans la mesure où elle entraîne un déséquilibre des pouvoirs contraire aux principes fondateurs de la cité unifiée.
Les murmures se transformèrent en vagues déferlantes de huées, de vociférations.
« Qu'est-ce qu'on attend, monsieur ?»
s'époumona un homme aux cheveux blancs et à la taille imposante, debout au milieu des travées.
« Que les ombres exterminent l'ensemble des habitants de Nilopa ?»
Une salve d'applaudissements et de sifflets salua les propos de l'intervenant. Alaric Brognier attendit qu'elle se calme. Son regard croisa celui de Jeffrey Dobbs, le maire de New York, assis au premier rang, imperturbable. Il lut dans ses yeux noisettes un dédain amusé, comme si la tentative désespérée de son confrère parisien de renverser le cours de l'histoire le divertissait. Il évoquait un prédateur se délectant des convulsions inutiles de sa proie.
« Non, bien sûr que non. Mais nous demeurons persuadés que l'article 72A n'est pas la bonne solution !»
reprit le maire de Paris.
« Nous ne nous trouvons pas en face d'un danger extrinsèque à la cité, selon la définition précisée dans les annexes de la Constitution, mais bel et bien en face d'un danger intérieur. Nous ne nous heurtons pas à une armée ennemie, mais à un groupe criminel parfaitement organisé qui relève de la sécurité intérieure, de la police et des services spéciaux d'investigation. »
Les huées et les vociférations recommencèrent, contraignant Brognier à se casser la voix.
Il n'y a donc aucune raison que nous procédions aux modifications politiques que vous réclamez avec tant de vigueur. Je propose que nous regroupions les forces de police des trois cités et que nous les placions sous un commandement militaire unique. »
Il s'interrompit, submergé par le brouhaha, et fixa avec insistance le président de séance placé au-dessus de lui pour l'inviter à reprendre l'assemblée en main. Mais ce dernier, un londonien à pure souche, ne broncha pas. Le maire de Paris patienta donc, les yeux rivés sur l'assistance houleuse, jusqu'à ce que le calme revienne.
« Je propose que nous associons l'armée aux investigations qu'il nous faut mener désormais avec la plus grande énergie, en oubliant les rivalités. De la sorte, nous obtiendrons l'efficacité que vous réclamez à corps et à cri, sans pour autant modifier la constitution de Nilopa. Nous préserverons ainsi l'esprit qui a présidé à la fondation de la cité unifiée. »
Une bronca ponctua la fin du discours d'Alaric Brognier, qui prit le temps d'observer les têtes rassemblées dans l'ancienne salle des lords. Il ne comptait pratiquement aucun partisan dans l'assemblée. Les délégués parisiens eux-mêmes semblaient acquis à la cause des maires de New York et de Londres. Corrompus. Comme les membres de l'état-major alignés sur un banc, impassibles. Comme tout le personnel politique ou administratif de Nilopa. La corruption. Une arme qu'il avait souvent utilisée et qui, aujourd'hui, se retournait contre lui, contre la population de la cité unifiée.
« Assez de discours !»
rugit l'homme qui était déjà intervenu quelques instants plus tôt.
« Assez de temps perdu ! Passons aux actes ! Et d'abord, au vote !»
Les clameurs transperçaient le triple vitrage de la baie de l'appartement de Ganesh. Les émeutes avaient repris. La pluie ne modérait pas les ardeurs. La cité volait en éclats sous les coups furieux des habitants désespérés. Le carillon de l'écran de surveillance égrena ses notes. Le visage d'une femme blond platine s'afficha. Ganesh se rapprocha de façon à ce que son propre visage apparaisse à la visiteuse. « Vilma ?
Bonjour Ganesh. Je ne vous dérange pas ? Je ne m'attendais pas à votre visite, je ne suis pas seule. »
« Venez avec moi dans la rue. Je dois absolument vous parler. »«
D'accord. Attendez-moi ici quelques instants. »
Ganesh enfila une veste.
« Je reviens tout de suite, » dit-il à Ava. « Attends-moi là. »«
C'est qui cette meuf ?»
Ava arborait sa tête boudeuse des mauvais jours. Il lui effleura la joue de la pulpe des doigts.
« Pas le temps de t'expliquer. J'en ai pas pour longtemps. »
L'ascenseur le déposa dans l'entrée de l'immeuble quelques secondes plus tard.
Vilma l'attendait de l'autre côté de la porte vitrée. Dehors, le vacarme de l'émeute ressemblait à un grondement d'orage. Elle n'était pas encore arrivée dans la rue, mais s'en rapprochait. Un autotaxi surchargé fusa devant eux dans un bourdonnement discret.
Vilma prit Ganesh par le bras et l'entraîna sur le trottoir, lançant des regards nerveux autour d'elle.
« J'ai perdu tout contact avec les dissidents. »
Sa voix était hachée, fissurée.
« Ils ont eu des ennuis ?» demanda Ganesh.
À mon avis, ils ont été repérés et éliminés. Ils sont intervenus il n'y a pas si longtemps pour vous empêcher d'être arrêtés par les grubs de Madison Avenue. Depuis, c'est le silence. Je suis la dernière sur la liste. À partir de maintenant, vous devez vous débrouiller seul.
Leur disparition a-t-elle un rapport avec l'assemblée extraordinaire des cités qui se tient en ce moment à Londres?
Probablement. Mais la prise de contrôle de la mairie de New York sur la cité unifiée n'est qu'une étape du projet des ombres.
Vilma s'arrêta de marcher et garda la tête penchée, comme pour dissimuler ses larmes. La femme forte et déterminée que Ganesh avait découverte lors de leur première rencontre dans son appartement semblait à présent fragile, désemparée. Il eut envie de la serrer dans ses bras. Un reste de pudeur l'en dissuada.
« Qu'allez-vous faire ?
Essayez de sauver ma peau ?
Comment ?
En changeant d'apparence, d'identité, en organisant ma disparition. »
Vous avez besoin d'un coup de main ?
Merci, mais j'ai de plus grandes chances de m'en tirer seul. Faites très attention à vous.
Prenez soin de vous aussi, Vilma.
La main de la jeune femme se posa sur son avant-bras.
Au revoir.
J'ai été ravi de collaborer avec vous, Ganesh. Je ne sais pas si on se reverra, dans la cité ou ailleurs.
Bonne chance.
Elle s'éloigna d'un pas pressé et disparut à l'angle de la première rue, au moment où les silhouettes gesticulantes des émeutiers faisaient leur apparition entre les façades.
La vibration de l'endophone de Ganesh le tira de ses réflexions.
« Ganesh, t'es disponible ?»«
Salut Théo. T'es où, putain ?»«
Peu importe où je suis. Nous avons fait fausse route, Ganesh, depuis le début. Les ombres nous lancent un défi. Nous devons penser autrement, nous défaire de nos conditionnements. »
« Attends, tu veux dire que je crois avoir compris qui sont les ombres et d'où elles viennent ?»«
Rien que ça. Il nous faut chercher ailleurs. Ailleurs sur le plan géographique, ailleurs sur le plan de la raison, ailleurs sur le plan de la logique. »
Le débit de Théo s'accélérait comme s'il craignait une menace imminente.
« Tu peux être plus clair ? Écoute bien.
Bon Dieu !»
La voix de Théo s'étrangla. Les mots se transformèrent en gargouillis inaudibles.
« Théo, qu'est-ce qui se passe ?»«
Les ombres. » Elles sont sur moi. J'aurais pas dû.
Théo !
Sa respiration sifflante résonna encore dans l'endophone, avant qu'un silence total, glacial, ne redescende dans la tête le corps de Ganesh.
Théo !
L'endophone composa le code de Théo à 5 reprises. Aucune réponse. Ganesh courut vers la porte de son immeuble, se soumit à la reconnaissance iridienne. Appela l'ascenseur d'un mouvement impatient, se rua dans son appartement, où il trouva Ava à la même place.
Théo m'a rappelé. La communication s'est interrompue brusquement, il s'est passé quelque chose. Il a parlé des ombres. On fonce chez lui.
Tu crois qu'il y est ?
On ne le saura que si on y va.
Ton ennemi est ton maître, ton fidèle reflet. Celui que tu as appelé dans ton être profond pour te rappeler qui se cache réellement dans la construction superficielle de l'humain que tu crois être.
Dandera, maître guérisseur du clan du Haut-Lieu. Pays Orsite.
Coupe cette corde !
Hurla Kolb à l'adresse de la gueule noire qui, tétanisée, poussait des gémissements de terreur. La mitraille des assaillants avait couché un grand nombre des adorateurs de l'osphère. Les ombres grises avançaient sans hâte, déployées sur toute la largeur de la place, achevant systématiquement les blessés d'une balle dans la tête ou le cœur. Leurs yeux brillaient comme des étoiles dans les fentes de leurs casques. Leur progression avait quelque chose d'implacable. Les lames des piques et des faux, des gueules noires, se brisaient comme de vulgaires brindilles sur leurs armures scintillantes. Leurs pistolets mitrailleurs tiraient des rafales brèves et rageuses, qui ne laissaient aucun répit, aucune chance à leur adversaire.
« Coupe cette putain de corde !»
rugit Kolb. La gueule noire, un adolescent à peine sorti de l'enfance, posa sur le trappeur des yeux agrandis par la frayeur. La sueur traçait des sillons dans la couche de charbon qui lui noircissait le visage. Kolb tira comme un damné sur la corde qui le liait à l'anneau de fer. Il voyait, entre les gouttes de pluie et les volutes de fumée, Naya se débattre sur sa croix au centre de la place. Mais, pas davantage que lui, elle ne parvenait à briser ses liens. Elle avait repris espoir lorsque ses bourreaux étaient tombés autour d'elle. Puis, elle s'était rappelé les paroles de Yosp et la peur l'avait de nouveau submergée. Elle discernait maintenant les ombres claires des cavaliers de l'Apocalypse, entre les rangs clairsemés des gueules noires. Ses poignets et ses chevilles s'écorchaient sur les cordes blessantes, qui la maintenaient rivée à la croix. Autant elle s'était résignée au supplice promis par les adorateurs d'Hélosphère, autant elle était traversée par une formidable envie de vivre face à la terrible légion qui se déployait sur la place. Elle tenta encore une fois de se défaire de ses liens, mais, gorgée de pluie, les cordes se resserraient à chacune de ses convulsions. Son hurlement de rage se perdit dans les rafales de pistolets mitrailleurs qui déchiquetaient la nuit. Une gueule noire en fuite heurta le pied de la croix et s'affala tout près d'elle. Son crâne, frappé par les balles, acheva de se disloquer dans sa chute. Elle perçut un mouvement au-dessus d'elle et crut sa dernière heure arrivée. Son sang se glaça. Elle ferma les yeux. Des images de son enfance dans le noyau déferlèrent en torrent dans son esprit. Ses parents, ses frères, Mano, Yakno, Ulma, les autres membres du clan du Pégase, Yosp, Kolb, dansèrent une ronde endiablée sous son crâne, puis le visage de Delune lui apparut comme un rocher au milieu des tourbillons. Elle s'y agrippa, rouvrit les yeux. Il était là, penché sur elle, coupant à coups de serpe les cordes qui entravaient son poignet.
Delune !
Le premier poignet de Naya dégagé, le guérisseur bondit par-dessus la croix pour libérer l'autre avec des gestes vifs et précis.
Une joie intense la submergea et chassa toute peur, toute pudeur. Les balles sifflaient au-dessus d'eux. Le nouveau prêtre de l'osphère était parvenu à rameuter ses troupes et à les lancer par vagues sur les cavaliers de l'Apocalypse, ralentissant leur progression. Naya put enfin se redresser et bouger ses bras ankylosés. Deux Lune fonça au pied de la croix pour trancher la corde liant ses chevilles, puis l'aida à se relever.
« Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le camp, bordel ?»
La voix de Kolb. Le trappeur, qui était parvenu à se libérer, fonçait déjà vers l'une des rues donnant sur la place. Ils s'élancèrent sur ses talons, heurtant des gueules noires qui battaient en retraite. Les jambes de Naya peinant à la porter, deux Lune l'attira par la main. Ils se jetèrent dans la ruelle empruntée par Kolb. Les cris des losphériens blessés et le crépitement incessant des balles s'éloignèrent peu à peu. Kolb s'arrêta de courir au bout d'un moment et les attendit, hors d'haleine, les mains sur les genoux. Naya put enfin reprendre son souffle, apaiser la brûlure à sa gorge et à ses poumons. Deux Lune retira sa veste et la lui posa sur les épaules.
« On peut dire que t'es arrivé au bon moment !»
halta Kolb.
« On peut pas rester dans le coin !» déclara Deux Lune. « Ils vont incendier la ville. Où est Yosp ?»«
Restez à l'auberge !» répondit le trappeur. « Faut aussi qu'on récupère nos affaires. J'ai plus d'armes, on a besoin du pistolet de Naya. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autres légions ailleurs dans l'agglomération. »
Ils prirent la direction de l'auberge sans croiser aucun autre bataillon de cavaliers. La main de Naya se glissa dans celle de Deux Lune.
« Je suis heureuse de te revoir, » murmura-t-elle. « Pas seulement parce que ça fait deux fois que tu me sauves la vie. »
« Je suis heureux aussi, » répondit-il sans oser la regarder. Ils trouvèrent la porte de l'auberge close. Les tenanciers refusèrent de leur ouvrir jusqu'à ce que Kolb menace de mettre le feu à leur maison.
« C'est pas des manières !»
grogna la femme lorsqu'ils s'introduisirent dans la pièce principale où rôdait une écœurante odeur de viande froide.
« C'est des manières peut-être de refuser d'ouvrir à ses clients !»
rétorqua Kolb.
« Il y a des bruits en ville !» plaida l'homme. Une guerre de clans s'est déclarée, ou encore les clans ont décidé de débarrasser la ville des gueules noires. Dans un cas comme dans l'autre, vaut mieux être prudent.
« C'est pas une guerre de clans, » intervint Deux Lune, « mais une attaque des cavaliers de l'Apocalypse. »«
C'est quoi encore, ça ?»«
Une armée décidée à exterminer les habitants du pays hors-site. Vous feriez mieux de fuir. »«
Et abandonner tout ça ?»
protesta la femme en désignant les lieux d'un ample geste du bras.
« Jamais !»«
Faites ce que vous voulez !» lâcha Kolb entre ses lèvres serrées. « Nous, on fout le camp !»«
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»
demanda l'homme en pointant l'index sur Naya.
« Les gueules noires voulaient l'offrir à leur dieu !» précisa le trappeur. « Et c'est eux qui ont fini sacrifiés !»
Ils se rendirent dans la chambre où Yosp les attendait. Terrorisé, le petit homme fut tellement soulagé de les revoir qu'il se jeta dans les bras de Deux Lune, puis dans ceux de Naya. Elle récupéra son pistolet, puis la boîte qui contenait leur argent.
« Pas sûr que ça vaille quelque chose en dehors de Tchon, » maugréa Kolb. « Et j'ai plus une seule peau à vendre. »
« Et moi, je n'ai aucun vêtement ni aucune chaussure à mettre, » soupira Naya.
« On trouvera de quoi te vêtir et d'autres peaux sur le chemin, » déclara Deux Lune. « Allons-y. » Il demanda aux aubergistes s'ils avaient des chaussures pour Naya. La femme s'absenta quelques secondes et revint avec une paire de bottes oubliées par une cliente, un peu trop grande, mais solide. Et confortable. Il leur en coûta 200 tchons, un vol pur et simple, selon Kolb. Deux Lune tendit ensuite ses outres remplies de cholmog aux aubergistes.
« Si les cavaliers ne détruisent pas entièrement votre ville, pourrez-vous apporter ces outres lépreux ?»«
Lépreux ?»
demanda la femme. « Ceux que vous appelez les pesteux, ceux qui vivent dans la grande fosse. »«
C'est que... » »«
Promettez-le-moi. » Deux Lune avait mis une telle intensité dans sa voix et son regard que son interlocutrice ne put qu'obtempérer.
« Promis, ils sont si dangereux que ça, ces cavaliers ?»
Naya fixa tour à tour les deux aubergistes. « Je les ai vus de près dans l'agglomération où je vivais. Les balles ne leur font rien. Ils sont implacables, invincibles, conçus pour détruire. À côté d'eux, les gueules noires ne sont que des enfants.
« On irait où si on devait partir ?»
gémit la femme en consultant son mari du regard.
« N'importe où sera mieux qu'ici. » N'attendez aucune pitié des cavaliers.
Ils sortirent de l'auberge et s'éloignèrent rapidement du rempart de Tchon. En haut de la colline qui dominait l'agglomération, ils se retournèrent et contemplèrent un petit moment les incendies qui ravageaient la ville et jetaient des lueurs rougeoyantes dans la nuit.
Ne me demandez pas comment j'ai survécu à l'attaque des monstres qu'on appelle les cavaliers de l'apocalypse. J'en sais foutre rien. Je me souviens seulement de l'odeur de la poudre et du sang, si forte qu'elle vous piquait la gorge et les narines. Du fracas permanent des balles, de la panique qui s'est emparée de nous. Notre nouveau prêtre, Daimon, a bien essayé de nous réorganiser et j'ai fait partie des vagues qui se sont brisées sur la muraille implacable qui avançait sur nous. Daimon a été à son tour tué d'une balle en pleine tête. Je l'ai reconnu à ce moment-là. Merwan, le fils de Denis, l'armurier du clan du feu. Merwan, quasiment du même âge que moi. Je savais même pas qu'il faisait partie des adeptes de l'osphère. Le secret était l'une des clés de notre puissance. Comment avait-il grimpé si vite dans la hiérarchie du culte? Je n'aurais jamais la réponse. Malgré une blessure au mollet, je suis parvenu à m'enfuir en rampant entre les cadavres. La pluie a sans doute été ma meilleure alliée. J'ai voulu ensuite regagner la maison de mes parents. Elle était en train de brûler lorsque je suis arrivé. Et mes parents, mes frères et sœurs avec. J'ai compris alors que je n'avais plus rien. Ni famille, ni refuge. Et j'ai maudit le nom de l'osphère qui nous avait poussé à crucifier des innocents et qui en remerciement nous avait dépouillés de tout.
Ils retrouvèrent le radeau où ils l'avaient laissé et le mirent à l'eau malgré les rideaux de pluie tirés sur la nuit presque opaque. Ils naviguèrent au jugé, Kolb à l'avant, sondant la rivière à l'aide d'une longue branche taillée.
« Foutue étape !» gronda le trappeur. « On ressort de Tchon plus pauvre qu'on y est entré !»«
On en ressort vivant !» intervint Delune. « C'est le plus important !»«
Pour combien de temps ?»« Si ces foutus cavaliers ont décidé d'exterminer tous les habitants du pays hors-site, on sera plus tranquille nulle part !»« Et je vois pas comment on pourrait leur échapper !»«
Ils ont forcément des failles, comme tout système !»«
Pourquoi ils veulent nous éliminer ? Après tout, il y a de la place pour tout le monde sur cette terre !»
C'est une bonne question. Delune réfléchit quelques instants. Il se contentait de maintenir le radeau dans le faible courant de la rivière, le plus loin possible des berges et des bancs de sable. La réponse nous donnerait certainement une clé, une possibilité de nous défendre.
Ça doit pas être facile d'en discuter avec eux. Et d'abord, d'où viennent-ils ?
De partout et nulle part. On dirait qu'ils sont disséminés dans tout le pays hors site, mais de façon coordonnée. Comme s'ils avaient la possibilité de communiquer à distance.
Comme dans le temps.
La longue branche du trappeur heurta une surface dure. Il fouilla les ténèbres du regard et repéra une forme figée un peu plus loin.
Rocher, droit devant. Faut prendre un peu large à droite.
Delune donna un coup de perche pour orienter le radeau sur la droite et éviter l'obstacle.
Pareil que tout le monde pouvait se parler à distance autrefois,
reprit le chasseur. Dandera m'en a parlé, confirma Delune. Ça s'appelait le téléphone.
Si ces salopards ont gardé ce vieux savoir, pourquoi est-ce que nous l'avons perdu?
Nous avons perdu bien plus que les vieux savoirs. Nous avons perdu notre humanité. Et les cavaliers sont là pour nous pousser définitivement dans l'oubli.
Tu veux dire que les hommes ne méritent plus de vivre?
C'est pas une question de mérite, objecta Delune. Nous devons seulement réapprendre à devenir des humains.
Comment ?
Nous avons les ressources en nous. Delune replaça le radeau dans le courant. Nous ne sommes pas que des masses de chair et de sang, mais des éclats de la création. Et nous disposons de tout le potentiel de la création.
Ouais ? Eh ben, faudrait nous dire comment faire, répliqua Kolb. Parce que moi, partout où je vais, je vois que violence, misère, faim, souffrance, cruauté et désespoir.
Au jeu de la violence et de la domination, nous trouverons toujours plus fort que nous. C'est ce que viennent nous rappeler les cavaliers de l'Apocalypse. Bordée maintenant de falaises abruptes, la rivière s'élargissait au fur et à mesure qu'il la descendait. La pluie avait cessé. Des étoiles apparaissaient dans les déchirures des nuages écharpés par le vent. Allongé près de Yosp, bercé par les murmures du courant et les claquements de la toile de l'abri, Naya balançait entre veille et sommeil. Elle baignait dans l'odeur de Delune, dans la présence de Delune, enveloppée de sa veste, envoûtée par le son de sa voix. Le sentiment doux et chaud qu'elle éprouvait pour lui estompait les souvenirs nauséeux des gueules noires, les images atroces des deux enfants cloués sur les croix, la frayeur violente soulevée par l'irruption des cavaliers de l'Apocalypse.
« Peut-être qu'on sera plus tranquille dans le sud, »
reprit le trappeur.
Pas sûr, répondit Delune. Je crois qu'ils ont tendu un gigantesque filet sur le pays hors site et qu'ils le resserrent peu à peu.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors?
Faudra sans doute les suivre la prochaine fois qu'on les croisera. Savoir où ils vont. Ils ont besoin de se ravitailler, comme tout le monde.
Putain, t'as pas une meilleure idée?
Le sourire candide de Delune désarma le trappeur.
Rien ne t'oblige à nous suivre, Kolb.
Naya eut le temps de savourer ce nous avant de sombrer dans un sommeil agité.